Je suis de retour à notre émission sur le phare de Pointe à la Renommée. On parle beaucoup de ce rapatriement, là, 20 ans plus tard, mais aujourd'hui, on va se permettre de reculer dans le temps et de voir l'importance de Pointe à la Renommée, cet endroit stratégique pour instaurer ou installer un phare à l'époque. Parce qu'il faut dire que la station du phare de Pointe à la Renommée, là, ça date de 1880. Ça a été dans les premiers phares le long du Saint-Laurent. Il y a des raisons pour ça. Donc, on va faire un petit bout là-dessus aussi avec Blandine Poirier, qui est avec nous. En studio, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien.
Alors, fébrile, ça fait 20 ans, là.
Oui, c'est ça, là.
Vous vous préparez pour cet été, là?
Oui, on va faire quelque chose pour signifier ça, là. Avec, ça va être une date avec Musique du bout du monde, le Festival Musique du bout du monde. Nous autres, on a choisi le 4 août parce que les autres, ils enchaînent leur festival après. Ça va être bien. Nous autres, on pense que ça va être bien pour tout le monde, des alentours, Gaspé, puis... Mm-hmm.
On va reparler de ça à la fin. Avant d'arriver tout de suite, justement, à ce rapatriement, puis on parle de bataille là, pour ramener, ça a duré 5 ans. Faisons un peu d'histoire sur cet endroit-là, Pointe à la Renommée, le premier phare, 1880. Je regardais, là, j'ai trouvé des archives et des textes, entre autres, de l'historien Jean-Marie Fallu. Et puis bon, on recule assez loin, là.
Oui.
Que 1880, il y a un premier phare qui a été installé là, mais ce n'était pas lui qu'on connaît.
Non, c'est ça. La famille Asquet de Penouille qui est venue s'installer sur le site.
À l'époque, c'était un phare en bois?
En bois, oui. Puis là, il était à même la maison. La tour était au-dessus de la maison, là.
Et à l'époque, quand on a installé ça, c'était parce qu'il y avait de plus en plus de trafic maritime, là.
Oui, puis les naufrages aussi. Oui. Il y avait beaucoup de naufrages. C'était évident qu'il fallait qu'ils installent un fort là pour le situer entre Cap-des-Rosiers. Puis il y avait Madeleine puis Pointe-au-Père. C'était des endroits stratégiques parce qu'ils savaient qu'il y avait des récifs qui étaient dangereux pour les bateaux.
Bon, alors, donc, on a connu cette époque-là, 1880. Donc, ça, c'est le premier phare, mais celui dont on parle en ce moment, le rouge en métal, il est arrivé, lui, comme quoi, 27 ans plus tard. Là.
Oui, en 1907 qu'ils ont construit ce phare-là. C'est un phare qui est... il y en a deux au Canada. Il y en a un à Terre-Neuve, je ne sais pas s'il existe encore, parce que c'est un phare en section boulonnée, là. Puis c'est démontable, puis on savait que Québec allait être capable de le démonter.
Juste auparavant, en 1904, là, c'est une date historique qui fait qu'on est devenu le premier phare en Amérique du Nord au niveau de la télégraphie sans fil.
Oui, il y avait toutes les communications. On était au loge des premières communications là-bas. Il y avait le télégraphe avec fil, il y avait le télégraphe sans fil, le téléphone, plus la poste, c'est parce que c'est un postillon qui venait à la porter, là, mais quand même... Pour l'époque, là, c'était important.
Parce que c'était le premier du genre, tu sais, avec Marconi et que sa découverte, là, c'est un peu ça. Donc, on avait installé ça là.
Oui.
Les raisons qui entouraient justement ça?
Je ne sais pas. Faut dire que quand M. Marconi s'avait installé à Terre-Neuve, là, son premier signal était lancé de Terre-Neuve. Hein? On n'y enlèvera pas ça. Puis, Terre-Neuve n'a pas voulu qu'il s'installe complètement parce qu'ils ont dit « il va nous... l'argent, là, tu sais, ça va... lui, va faire de l'argent, puis eux autres, avec leur télégraphe avec fil, ils n'auraient pas fait. Ça fait que il a été voir le monsieur... c'était le premier ministre Wilfrid Laurier.
Oui.
Puis il a été voir M. Préfontaine, qui était là, puis il a demandé... Puis ils ont dit, on a un endroit stratégique qu'on te conseillerait, Pointe à la Renommée. Puis c'est comme ça que la première station radio-maritime en Amérique du Nord est arrivée là.
Bon, on parle évidemment de l'histoire de ce phare de Pointe à la Renommée. Donc, il y a eu 1880, le nouveau phare qu'on connaît. Il y a eu des événements marquants aussi entourant justement ce phare-là durant ces années d'opération.
Oui. Oui, en 1909, il y a eu la révolte des pêcheurs qui s'est... ça a commencé à Rivière-Nord. Bien, pas à Rivière-Nord directement, c'est les pêcheurs de Lance-Avallo à Rivière-Nord qui ont commencé ça. Ils ont descendu là-bas. Puis, après, ils ont vu qu'il y a un bateau qui venait. Puis le bateau qui était arrivé au nord a parti, puis s'est en allé. Mais eux autres pensaient qui était parti, mais non, il a monté se stationner à Pointe-à-la-Renommée, puis il a descendu par le sentier, sentier pédestre là, pour jusqu'à Lansavallo, puis ils ont fouillé toutes les maisons dans Savallo pour trouver les coupables, là, les pêcheurs coupables qu'il y avait dans ça. Puis c'est de là que les soldats ont parti pour descendre à pied dans les villages avoisinants, là, Lansavallo, Pointe-Jaune, Saint-Maurice, puis Petit-Cap, pour trouver les formateurs de cette émeute.
Bon, et les deux guerres mondiales, la première et la deuxième, on a joué un rôle?
Oui, en 1919, en 1914, la Première Guerre mondiale, il y a eu un campement de l'armée au-dessus, où, en ligne là, du bureau d'accueil touristique à Lansavallo, du bureau d'accueil à Lansavallo, à Pointe-à-la-Renommée, il y avait un campement de l'armée. On a les photos, on voit le campement, puis il faut croire que dans l'été, c'était plus chaud, bien, il y avait des tentes. On voyait trois tentes de l'armée, là.
OK, donc il y avait du monde en place, là, et on se servait de ce... C'est un endroit stratégique pour voir le fleuve Saint-Laurent, là.
Oui.
C'est ça.
Oui, puis il y a eu beaucoup de monde, parce qu'on voit des soldats, là, puis on en voit aussi sur le bord du rivage, là, qui surveillent probablement les sous-marins, là. C'est la Deuxième Guerre qu'il y en a eu plus, mais...
Oui, parlez-moi un peu de la Deuxième Guerre, parce que là aussi, il y a eu des événements qui ont marqué.
Oui, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont réquisitionné la station pour le département de la Marine. Le département de la Marine, c'est le département de la guerre aussi, là. Puis, ça fait que les opérateurs n'avaient pas le droit de coucher là. Ils avaient donné leur place aux gens qui venaient pour surveiller. C'était surtout pour surveiller les bateaux allemands. Parce qu'il y avait eu un...
Le sous-marin?
Oui, mais avant, là, il y avait supposément un espion allemand. Il a réussi à se faire engager à la station. C'est un Allemand.
OK.
Puis supposément qu'ils l'ont vu sortir une soirée avec un fanal, là, pour de la lumière vers le... Il faisait des signaux vers la mer. Puis les sous-marins étaient rendus... ils ont monté jusqu'à Cap-Chaud. Ça fait que c'est important d'être là, là.
Il n'y a pas un événement mais aussi qui est survenu justement du côté de Pointe-à-la-Renommée avec le torpillage là, du navire près de la Pointe-à-la-Renommée, le Nicoya et le Leto.
Ah oui, ils ont été torpillés, eux autres, c'était plus au large, là, mais ils ont dérivé vers le il y en a du Leto qui ont dérivé vers Chloridum, mais le Nicoya, ils ont dérivé vers Lansavallo dans un grand... On a les photos de ça. Puis c'est des pêcheurs de Lansavallo qui ont réussi à aller les chercher pour les amener au rivage, là, puis les emmener dans des maisons pour les faire sécher, se faire sécher. Puis...
Oui, parce qu'on dit que Pointe-à-la-Renommée, c'est de là qu'on a su, où on a aperçu, puis qu'on a informé les autorités militaires, justement, de ces torpillages-là. On les a vus, là.
Oui.
Ça a été un endroit stratégique. Pour voir ces événements-là. Mais après ça, la station de radio maritime a fermé ses portes, elle.
Oui, bien, elle est déménagée à Rivière-au-Nord. Le jour même qu'ils l'ont fermée à Pointe-à-la-Renommée, ils l'ont déménagée à Rivière-au-Nord.
En 1957, ça.
Oui. Le même jour a été mis en opération à Rivière-au-Nord.
Et après ça, là, le phare, évidemment, lui, a fermé aussi.
Oui, en 1975, c'était la fermeture du phare. Il avait offert les terrains puis l'ensemble, là, qui est encore... qui a été encore vivable pour faire de l'exploitation touristique. Mais la ville de Gaspé, dans ce temps-là, c'était le Robert Pigeon qui était le maire, puis avait jugé que c'était pas utile pour la ville de Gaspé, ces terrains-là. Puis c'est comme ça qu'ils l'ont refusé. Puis elle avait été offerte aussi à la société...
historique.
Oui. Puis eux autres aussi.
De la Gaspésie.
Gaspé, vu de Lansavallo, c'était un mec trop loin pour eux autres. Pour préserver ça, là.
Mais qu'est-ce qui s'est passé après ça? Donc,
ici, tu sais, il faut que tu te dises que quelque chose de fermé, ça attire les je dirais pas... c'est des jeunes... ils avaient commencé à tirer du fusil dans le Pris. Parce que le Pris a deux coches en dedans, puis ça fait que la garde côtière, quand elle a vu ça, bien, elle voulait le préserver, ce fort-là. Ça fait que... elle a fait une belle affaire. Elle a décidé de le démanteler puis le monter à Québec parce qu'il était déboulonnable. Puis ils l'ont monté à Québec, ils l'ont mis dans l'hangar. Puis après ça, ils l'ont sorti de là en 81. Bien, ils l'ont sorti avant là, pour le préparer. Puis en 81, ils l'ont sorti pour inaugurer Il y avait soit là pour les fêtes 84.
C'est ça. Donc, devant le bureau, si on veut,
de la garde côtière. Le bureau de la garde côtière, puis pas loin du... C'était à côté du boulevard Champlain. Il n'y avait pas sa place bien, bien lourde, tu sais.
Oui, bien justement, on va faire une pause, puis là, on va revenir justement sur cet aspect-là. C'était pas vraiment sa place, Mme Blandine Poirier nous dit aujourd'hui, puis c'est à partir de ce moment-là que... Début des années 90 qu'on a commencé à travailler pour le rapatrier.
Ouais.
On revient dans un petit moment avec vous, Mme Poirier.